Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro spécial Dialogue entre Congolais dans la province du Tanganyika. Crise institutionnelle dans la province du Tanganyika. Vous le savez, la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, a été déchue par l'Assemblée provinciale le 8 mai 2023. Sur les 25 élus que compte l'Assemblée provinciale, 14 députés ont voté pour son départ. Il lui est reproché notamment la mauvaise gestion de la province du Tanganyika. Cependant, les 11 députés qui ont voté contre la motion désapprouvent la décision de leurs collègues, car, disent-ils, la gouverneure n'a pas eu l'occasion de s'expliquer. Entre-temps, depuis la déchéance de la gouverneure du Tanganyika, les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale ne parlent plus un même langage et deux camps se livrent à une bataille sans merci, d'où la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, de suspendre les activités au sein de cette institution provinciale. Quel climat règne aujourd'hui dans cette province? C'est notre thème de ce soir et nous en parlons avec Mathias Makolovera. Il est coordinateur de la cellule de communication du gouverneur du Tanganyika. Mathias Makolovera, bonsoir.
Bonsoir Kéline, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Kaki.
Alexis Katempa, député provincial élu des Kalemie. Monsieur Katempa, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kaki.
Avec nous aussi dans ce débat, Maître Bavon Kalinde, il est avocat et analyste politique. Maître Bavon, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors on ne vous oublie pas, vous public, qui êtes venus très nombreux dans cette salle pour aussi donner votre avis sur la situation que traverse la province du Tanganyika. Merci de manifester votre présence dans la salle par des applaudissements. Je suis Kéline Kouté, qui matérialise cette émission. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangassa et Jonathan Fanani s'occupe du live sur la page Facebook des Radio Kapi. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre à radio-kapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, crise institutionnelle dans la province du Tanganyika. Comme vous le savez, la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, a été déchue par l'Assemblée provinciale. Entre-temps, depuis la déchéance de la gouverneure du Tanganyika, les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale ne parlent plus le même langage, d'où la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de suspendre les activités au sein de cette institution provinciale et même de sceller l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Mathias Makolovera, je rappelle que vous êtes coordinateur de la cellule de communication du gouverneur du Tanganyika. Comment se porte la province du Tanganyika aujourd'hui?
La province se porte très bien, Madame Kéline, et se porte très bien en dépit de toute la situation que vous êtes en train d'énumérer sur les plans politiques, qu'on aura peut-être le temps d'en parler dans cette émission, parce que c'est une aubaine pour nous, afin de parler de cette situation, essayer un peu d'éclairer l'opinion, la population, sur ce qui s'est passé, qui est loin d'être une crise institutionnelle.
Et il s'agit de quoi si ce n'est pas une crise institutionnelle?
Merci beaucoup. La situation qui s'est passée dans la province du Tanganyika, avant qu'elle ne soit appelée crise institutionnelle, il s'agit d'un coup d'État politique démesuré, envisagé par un certain nombre de députés provinciaux, qui malheureusement, cette conspiration n'a même pas bénéficié à aux putschistes qu'ils sont. Il s'agit d'une situation artificielle qu'ils ont créée parce que dans un coup d'État, la première des choses, c'est la fixation des objectifs. Peu importe la loi, peu importe les règlements, peu importe les règles de la République, les putschistes, quand ils prennent leurs décisions, leur visée, c'est d'atteindre leur objectif. Et pendant ces temps, la loi est mise à côté. J'appelle ça un coup d'État politique parce que la loi ou encore les règles de la République prévoit toute une procédure avant de faire la déchéance d'un gouverneur. Et cette procédure n'étant
n'a pas été respectée.
Cette procédure n'étant pas été respectée, il ne s'agit pas d'une crise institutionnelle régulière, mais plutôt d'un coup d'État politique démesuré.
Ce qu'on reproche à la gouverneure Julie Ngungwa, Est-ce vos frais, mes gestions de la province du Tanganyika, marché de gré à gré, manque de leadership et de vision claire pour le développement de la province?
Mais avant de parler de ce qu'on reproche à Madame le gouverneur, il faut d'abord dire ici, je salue d'abord les députés provinciaux, parce que les députés honorables Ngoyo Kakuji Wama n'a fait que preuve d'une bonne démocratie, parce que adresser une question orale avec débat au gouverneur de province, c'est un exercice démocratique. Nous sommes en train plutôt de condamner la procédure, la précipitation par laquelle les députés ont procédé, parce qu'il s'agissait de quelque chose qu'ils avaient déjà programmé dans la tête. Et en faisant cette précipitation, je vous dis très bien, cette conspiration a tourné contre eux-mêmes. Donc, on pourrait reprocher à son Excellence Madame le Gouverneur, d'ailleurs même la constitution même de la question orale avec débat, elle-même d'abord pose problème, parce que la loi est claire. Le gouverneur de province ne peut répondre à l'Assemblée provinciale que sur des questions qui cadrent avec la politique générale du gouvernement. Et quand il s'agit de la politique particulière, il y a des ministres sectoriels qui devraient être d'abord invités,
mais
entendus.
C'était quand même elle la numéro un de la province. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'inviter un ministre sectoriel.
Mais écoutez, Kéline, si elle est numéro un de la province.
On parle de la gestion générale de la province.
C'est la même loi. Si c'est la loi qui reconnaît que Madame le gouverneur est le numéro un de la province, et c'est la même loi qui dit encore qu'on peut inviter séparément. Parce que vous avez entendu dernièrement le sénateur Denis Kambaï qui a adressé une question orale avec débat à trois ministres différents. Le ministre de l'Agriculture, le ministre des Infrastructures, le ministre des Sports. Est-ce qu'on a invité le Premier ministre pour répondre? Parce qu'il s'agissait seulement de trois secteurs. Et si vous analysez la composition de la question orale avec débat de l'honorable Ngoyo Kakuji Wama, 90% de la matière traitée était de la matière financière. On devait commencer par écouter d'abord le ministre des Finances. Il y avait également 5% cadré avec les infrastructures. On devait terminer avec le ministre des Infrastructures.
C'est pourquoi 5% avec le ministre de l'Intérieur.
Elle n'a pas refusé de se présenter,
mais
ça c'est un autre problème.
Pourquoi ne s'était pas présentée lorsqu'elle a eu l'invitation?
Merci beaucoup. Je pense que c'est connu de tous que la question orale avec débat de l'honorable Wama était initiée en date du 26, donc notifiée au gouverneur en date du 26 avril 2023. Et pendant ce temps, depuis le 20 avril, son Excellence Madame le Gouverneur avait déjà son autorisation de sortie pour des soins médicaux. S'il faut mettre la page soins médicaux à côté, alors que le gouverneur devait répondre le 28 à l'Assemblée, directement il y a eu un télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour consultation, invitant son Excellence Madame le Gouverneur. Et pendant ce temps, Madame le Gouverneur a écrit un moratoire. Étant à Kinshasa, parce qu'il faut sauter certains événements, étant à Kinshasa, elle devait répondre le 8. Mais jusqu'au 8, elle était encore retenue à Kinshasa par sa hiérarchie administrative. Et le 6, elle a encore réécrit un autre moratoire pour informer à l'Assemblée provinciale, qui d'ailleurs refusait dès le début, parce que c'est un putsch, comme je l'ai dit au début, c'est un putsch déjà préparé. On refusait même que son Excellence, Madame le Gouverneur, obtienne ses moratoires. Pourtant, c'est de son droit. On a encore réécrit et après, on a convoqué la plénière, constatant qu'il y a son absence. La procédure est encore biaisée. Je vais même vous lire les règlements, leurs propres règlements. Parce que si on aura des parlementaires qui soient là pour violer leurs propres règlements d'ordre intérieur, qui d'ailleurs est l'ombre de la Constitution, également l'ombre du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, donc on n'aura jamais eu un parlement fort ou des institutions fortes. Parce que ce sont des parlementaires qui répondent plutôt à l'intérêt de leur parti que de répondre à l'intérêt de la population.
Alors, vous parlez de coup d'État politique déjà préparé. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce qu'il y a eu des antécédents?
Les antécédents, on ne peut pas les dire, mais c'est parce que d'abord la procédure elle-même n'a pas été suivie. Cette analyse nous fait croire qu'il s'agissait d'un coup d'État. Parce que la motion orale, la question orale avec débat, jusque-là, ça ne pose pas problème. Le gouverneur peut répondre à une question orale avec débat. Mais qu'est dit la loi? Nous allons à l'article 162 de leur règlement d'ordre intérieur. D'abord, les bureaux de l'Assemblée provinciale ne peuvent se réunir en fonction de l'article 32 de leur propre règlement d'ordre intérieur. L'honorable est avec moi ici. Le bureau ne peut jamais se réunir s'il n'a pas réalisé le 3/4 de ses membres. Donc, le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a 5 membres. Le jour qu'il y a eu 7 plénières pour analyse de la question orale, il y a eu 2 membres seulement. Et directement, ça c'est l'article 32. Et l'article 162 du même règlement d'ordre intérieur enjoint au bureau de l'Assemblée provinciale de recevoir la question orale avec débat. Après l'avoir reçu, j'ai dit bien les bureaux, pas les présidents. C'est le président qui, c'est les bureaux qui reçoit la question orale avec débat. Et puis, il y aura une analyse dans le bureau avant de programmer la plénière et de notifier aux concernés. Et la plénière ne peut se tenir qu'en dehors 7 jours. Cette précipitation de ne pas suivre les étapes prévues par les articles du règlement d'ordre intérieur a fait tourner ce coup d'État contre eux-mêmes. Conséquence, même les plénières de l'Assemblée provinciale, qu'ils pensaient avoir un paradis demain, fermé, à l'institution, rien ne va, et le perdant, c'est la population.
Et ça vous réjouit, vous qui défendez la gouverneure, Julie Ngungwa?
Ça ne réjouit personne. Ça ne réjouit personne. La mauvaise marche des institutions ne peut jamais réjouir quelqu'un. Comment est-ce que ça peut réjouir? Mais qui sont auteurs de cet événement? Ce sont ces mêmes représentants de la population.
Alors, on va donner la parole au député Alexis Katempa, qui est député provincial élu des Calémies honorables. Pourquoi ce coup d'État politique précipité? Je reprends l'expression de Mathias Makolovera.
Je crois que il ne s'agit pas de coup d'État, c'est peut-être une galerie de mots hein, qu'on est en train d'employer ici. Nous devons respecter certaines choses. Ici, la procédure n'a pas été violée.
A-t-elle été respectée?
Respectée, madame. Nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie des gens et essayer de prendre défense des indéfendables. Madame le gouverneur, après avoir reçu la question orale avec débat, elle est allée à l'Assemblée pour présenter son ordre de démission. Elle devait se rendre aux soins. C'est elle-même qui a rédigé la lettre demandant le moratoire. Elle devait répondre le 28 avril, mais elle a renvoyé 8 mai. Qu'est-ce que l'Assemblée pouvait faire? On va convoquer la plénière à la date prévue par elle-même. Elle part à Kinshasa. C'est que l'intervenant de toi ne voulait pas dire. Il y a ce qu'on appelle des trafics d'influence et des jongleries politiques. Ouais. Elle arrive à Kinshasa et va voir le vice-président intérieur pour lui dire qu'on ne puisse pas organiser le plénière et il invite. Il se donne les kilos. Je dis bien, d'inviter le président de l'Assemblée provinciale et le vice-gouverneur. Il n'a ni compétence, ni qualité, ni titre, ni droit. J'ai la loi ici. Tout simplement parce que le gouverneur est allé voir son ministre du parti pour lui dire, voilà, là, ça chauffe, il faut arrêter. Nous allons arrêter quoi?
Vous avez organisé la séance plénière alors que le quorum n'était pas atteint. Il y avait 2 membres du bureau sur 5.
Voilà. Je vous donne la loi, notre règlement intérieur. Le quorum de l'Assemblée provinciale, c'est une confusion avec le bureau provincial. Le quorum de l'Assemblée provinciale, c'est le nombre de sièges. J'ai la loi 166 ici, je vais vous lire. Eh bien, je peux même vous donner. Voilà pourquoi les gens qui assistent à des plénières, on commence par la nomination, appel nominal. Et le président lui-même répond présent, et tout le monde. Et on se réunit à la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un. Là, on était 14. Comment on ne veut pas se réunir? On fait allusion au bureau de l'Assemblée, qui n'est pas le bureau de la plénière, qui est le tout premier organe de l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée plénière. C'est l'organe de décision. Nous adoptons tout là-bas. Et si nous disons vous partez, c'est là-bas. Donc, il n'y avait rien. On fait confusion, on fait l'amalgame. On confond les bureaux des 5 membres et l'Assemblée plénière.
Mais il faut dire aussi que les trois membres du bureau qui n'étaient pas avec vous ont quand même désavoué la procédure suivie.
Madame, je crois que je parle devant les auditeurs et les gens qui nous suivent. Le rapporteur, c'est lui-même qui a convoqué cette plénière. Et ce jour-là, il s'est absenté pour des raisons d'un camp politique, parce que nous avons constaté qu'il y avait des députés qui se comportent comme les membres de l'exécutif provincial. Et ils ont pris cette option-là de sécher les plénières. C'était mal pensé parce que nous siégeons sur base de quorum. Et c'est comme ça que les deux qui étaient là, même le président s'il était seul, si on devait avoir 14 ou 13, on devait tenir notre plénière. Donc voilà un peu les astuces de madame vouloir bloquer. Et elle a mal choisi le terrain. Ce n'est pas le ministre chez qui il va faire ce qu'il a fait. Ici, c'est l'Assemblée. Nous sommes autonomes. C'est l'Assemblée provinciale qui élit les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Et nous avons le pouvoir de les déchoir. C'est ça la précision que nous devons donner. Tout ce qui a eu, on a dit que c'était précipité. J'ai la loi ici. Règlement intérieur, article 170. Cet article dit quoi? Les membres du gouvernement ou les gestionnaires de services répondent oralement à la question posée en séance plénière de l'Assemblée provinciale à la date fixée par le bureau et, dans tous les cas, au plus tard, dans les 15 jours qui suivent la réception des textes par les destinataires, les débats n'est suivi d'aucun vote. Vous comprenez? Le bureau fixe, mais la fourchette, c'est dans 15 jours. Quand le bureau a fixé dans 48 heures, madame a demandé le moratoire, le 8, et nous avons respecté le 8. Nous l'avons entendu. Quand vous prenez l'article 166, c'est là où elle s'est attirée la foudre des députés. Nul ne peut se soustraire à l'obligation de répondre à la question orale ou écrite posée par un député provincial, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, sous peine, le cas échéant, de s'exposer à des sanctions recommandées par la plénière pour les membres du gouvernement à la motion de défiance ou de censure, conformément à l'article 148 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nul ne peut se soustraire. L'intention, c'était de se soustraire et chercher d'autres mécanismes de bloquer. Nous étions souverains de prendre des mesures.
Alors, Alexis Katempa, vous avez déchu madame le gouverneur de Tanganyika. Après, c'était les membres du bureau qui ne parlent plus le même langage. Il y avait comme une crise au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale, d'où la décision du vice-premier ministre de suspendre les activités au sein de cette institution provinciale et même de la sceller. Alors, comment vous analysez d'abord la décision du VPM?
Non, c'est pas une décision, ça, c'est le gangstérisme politique. Je vous donne la loi. D'ailleurs, je pense que s'ils me suivent, c'est malheureux, hein. Les mêmes gens qui prétendent respecter les textes, on les viole. Prenez la loi 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration. Vous prenez l'article 62. Ne fût-ce que ça. Madame, je vous dis, il n'y a aucune passerelle entre les assemblées provinciales et les ministères de l'Intérieur au niveau national. Aucune passerelle. Ici, c'est le Sénat qui peut à tout moment inviter les présidents des assemblées provinciales pour consultation. Et s'il y a des problèmes, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent effectuer ce qu'on appelle des missions ponctuelles à l'Assemblée. On ne cite nulle part cette pratique qui est née, on ne sait pas d'où, pour asphyxier les assemblées. Nous ne sommes pas dans l'exécutif. Donc, dans cette histoire, voilà comment madame est allée chercher des béquilles là où on ne devait pas chercher.
Merci Alexis Katempa. Maître Bavon Kalinde, vous êtes avocat et analyste politique. Comment vous analysez cette situation politique dans la province du Tanganyika?
Merci beaucoup madame Kelly. Effectivement, si nous étions dans un pays de respect des lois, on ne parlerait pas de crise institutionnelle, comme on le dit. Et l'affaire dès le départ ne présentait pas en elle le soubresaut d'une crise institutionnelle. Il y a eu d'une part l'exercice normal de la démocratie par les députés qui estiment qu'ils avaient des questions à poser et qui estiment que la gouverneure avait des justifications à faire devant le peuple. Mais seulement voilà, la séance a eu lieu en l'absence de la concernée. Elle a demandé un moratoire au motif de maladie, mais malheureusement, tout le monde a vu qu'au lieu d'être à l'hôpital, c'est dans les bureaux des différents responsables à Kinshasa. Et ça passait dans les réseaux sociaux. Et curieusement, on a constaté encore le VPM qui a demandé que les différentes autorités de la province puissent se rendre à Kinshasa. Donc lorsque nous sommes dans un pays de droit, nous pouvons nous demander est-ce que le vice-premier ministre a-t-il droit de faire des interventions à ce stade-là? Bon, la loi nous concède que pour des raisons de sécurité, il peut prendre des mesures. Mais néanmoins, en ce qui concerne le cas de la province du Tanganyika,
a-t-il le droit, oui ou non, de sceller le bureau de l'Assemblée provinciale?
Il a le droit de sceller au cas où il y a un souci de sécurité. Par exemple, qu'il y a des troubles.
Est-ce que c'est le cas dans la province du Tanganyika?
Non. Ici, aussitôt que la gouverneure a demandé un moratoire, avant l'arrivée de la date à laquelle elle a demandé, le VPM a écrit pour demander que le président de l'Assemblée puisse se rendre à Kinshasa. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de troubles. Le jour de la plénière, c'est là qu'il y a eu des troubles par rapport au vote. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'à ce stade-là déjà, le VPM pouvait prendre des dispositions? Nous, en tant qu'analystes, nous estimons que par rapport à ces troubles, le VPM pouvait prendre cette disposition de préserver la sécurité au niveau de l'Assemblée. Alors, maintenant, si aujourd'hui, la gouverneure estime qu'il y a des soucis quant à la violation de la procédure suivie, c'est de son droit. Mais alors, qui a compétence d'estimer qu'il y a eu violation de la procédure? Je crois que nous avons appris que la gouverneure a saisi la cour. Alors, comme elle a saisi la cour, il faut attendre la décision de cette cour. Mais en attendant, la décision prise par l'Assemblée provinciale reste de mise. Donc, elle s'impose immédiatement, avec effet immédiat. Et parce que nous apprenons par la suite que la gouverneure continuait à donner les ordres aux banquiers et nous estimons que ça c'est très grave. C'est une situation très grave parce que...
Mais est-ce que ça se poursuit parce qu'aujourd'hui c'est le vice-gouverneur qui assume l'intérim?
Oui, nous avons vu la lettre de l'IGF qui a fait des observations au ministre des Finances en disant qu'il ne pouvait pas décaisser sur ordre de du gouverneur des choses et qu'il fallait faire un arrangement avec le vice-gouverneur. Bon, je crois qu'en ce moment-là, ils doivent quand même suivre cette situation-là de près. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il peut y avoir quelques soucis par rapport à la violation de la procédure et à entraîner la déchéance de la gouverneure. Mais ce sont des questions qui doivent être traitées par la cour qui a déjà été saisie. Mais en attendant, les choses restent que la gouverneure est déchue.
Avant de vous redonner la parole, Mathias Makolovera, on va donner la parole au public pour la première série des questions. Guy Maté, est-ce que tu peux promener le micro? Allez-y, vous avez la parole.
Merci, Madame Kelly, de l'accord la parole. La question est très sensible, si sensible que la population dont la jeunesse doit s'exprimer. Nous avons suivi très religieusement l'honorable Alexis Katempa, qui est coordonnateur du parti politique Ensemble pour la République. L'honorable Alexis Katempa, nous avons, nous la population du Tanganyika, une question à vous poser. La province du Tanganyika, au cours de cette mandature, a connu 4 bureaux de l'Assemblée provinciale. Les bureaux Loulou, les bureaux Virginie, dont vous étiez vice-président, les bureaux Kibombo, qui a été élu 2 fois. Pour la première fois, il n'a pas été reconnu par Kinshasa, et Kinshasa a ordonné à ce qu'il y ait réorganisation des élections. Et aujourd'hui, le bureau Kibombo est là, donc à 2 reprises, nous avons connu 4 bureaux de l'Assemblée provinciale. La province du Tanganyika a connu le gouverneur Zoé, qui a pratiquement fait 2 ans, le vice-gouverneur Monu, assumant l'intérim presque 1 année, Madame Julie Ngungwa, qui est pratiquement 10 mois, et aujourd'hui l'actuel vice-gouverneur. Honorable Alexis Katempa, de tous ces changements intempestifs des bureaux de l'Assemblée provinciale, quelle est la part du peuple? De toutes ces multiples destitutions, quelle est la part de la population du Tanganyika? Subsidiairement à cette question, honorable Alexis Katempa, nous aimerions savoir, sur le plan réglementaire, s'agissant de votre règlement intérieur, quelle est la procédure que vous devez suivre? Je rappelle que vous êtes enseignant d'université et que la conscience aussi doit vous rappeler. Sur le plan réglementaire, quelle est la procédure à suivre pour qu'il y ait vote d'une motion? Quand un honorable député initie une question orale avec débat aux concernés et qu'il se fait que les concernés ne se présentent pas les jours qu'il devait répondre, faut-il que cette motion soit ipso facto ou séance tenante transformée en motion et qu'on procède directement au vote de cette motion sans que l'on nous respecte les caractères contradictoires? Je vous remercie.
Alors on va prendre la deuxième question. Essayez d'être concis, s'il vous plaît. Hein.
Effectivement, merci. Moi, c'est Georges Mbouyou. Je suis le coordinateur de VEMI et vice-président national de la dynamique de groupe des peuples autochtones. Depuis l'avènement de notre province, c'est une naissance d'une chauve-souris. C'est-à-dire, depuis l'avènement de cette province, elle a été créée avec beaucoup d'insuffisance. Cette insuffisance est politique. Parce que pour être gouverné, il faut être dans une obédience, telle obédience politique. C'est comme une danse, comme on disait là, les sakayonsa.
Est-ce que vous pouvez aller droit à la question, s'il vous plaît?
Oui, ces sakayonsa là qu'on nous fait danser ici dans les Tanganyika, ça ne profite rien à la province. Que dit maintenant l'analyste politique par rapport à cette situation? Et je demande aussi aux parlementaires, qu'est-ce que vous avez fait pour faire même un édit pour qu'on puisse élire un gouverneur par la population? Parce que nous voyons avec vous les politiciens, ça ne donnera pas de solution ici au Tanganyika.
Troisième question. Il y a des dames dans la salle, elles se préparent. Je sais qu'elles vont poser des questions.
Merci, Madame Kelly. Moi, c'est Jean Kassongo. Ma première préoccupation, c'est que je voudrais m'adresser à l'honorable Alexis Katempa. L'aîné du problème, c'est que, ou l'antécédent, il y a eu le refus de Madame Gouverneur de faire voyager un président de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée provinciale à Paris. Voilà même le nez du problème. Vous avez écouté ça sur les réseaux sociaux. Et donc, nous nous posons la question, est-ce que réellement les députés que nous avions délégués dans l'Assemblée travaillent vraiment pour la population ou ils travaillent pour leur propre ventre?
Merci beaucoup, monsieur. Alors, on va laisser la possibilité aux invités de répondre d'abord à cette première série de questions. Monsieur Katempa, vous avez la parole. Oui, allez-y, répondez aux différentes questions qu'on vous a posées.
Il a posé la question de savoir où est la part de la population. Bon, il y a beaucoup de changements, tout ça. S'il y a des changements, c'est-à-dire rien ne va. On ne peut pas changer pour changer. Rien ne va. Je pense que les gens sont témoins ici, à moins qu'il y ait l'hypocrisie. Depuis que nous avons commencé, il n'y a aucun plan de développement de la province ici. Même pas quelques mètres de route. Depuis que nous avons commencé, nous sommes les répondants de la population.
Ça veut dire que vous faites le mauvais choix.
Voilà. Écoute. Il y a ceci, suivons. Suivons d'abord. Mauvais choix ou pas, parce que
s'il vous plaît, quand même s'il vous plaît, on va écouter le député.
On élue un gouverneur. On va le voir à l'œuvre. Si on trouve qu'à l'œuvre, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aussi répondre, je pense que c'est mon co-débatteur qui a dit qu'il y a des gens qui sont contre les députés. Mais nous ne devons pas voir la majorité totale. Bon, je disais que rien ne va, monsieur. Voilà pourquoi il y a des changements ici. La population, il n'y a pas de changement. C'est ainsi que nous sommes en train d'échanger à tout moment. Pour trouver le mieux.
Alors, par rapport à la procédure, on va y aller rapidement, hein, s'il vous plaît.
Il y a encore deuxième question. On nous a dit qu'il fallait un édit. Un édit pour élire le gouverneur, je crois, au suffrage universel direct. Mais ça, c'est la compétence de la loi électorale de la CENI. Parce qu'il faut qu'on puisse voter cette loi-là pour dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir la procédure, je crois que j'ai dit ici. La procédure. Nous avons la loi qui dit, lorsque vous n'êtes pas satisfait, l'auteur n'est pas satisfait de la question, il transforme cette question. Vous voyez, l'auteur a transformé la question. Elle a pris une motion. Oui, ça se transforme, non?
Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Il n'y a pas de délai, parce qu'à ce moment-là, il a dit
monsieur
lui-même,
Kadepa, allez-y suivez. Rapidement, s'il vous plaît. Hein.
L'auteur a parlé, elle a transformé la motion. Et nous étions dans quel cas? Le refus de la dame, ça frisait ce qu'on appelle l'outrage à l'Assemblée provinciale. Vous comprenez? Alors,
merci.
Il n'y a pas de délai à ce moment-là.
S'il vous plaît, dans la salle, on va écouter le député, s'il vous plaît.
Je suis en train d'expliquer.
Vous avez deux minutes, parce qu'on doit donner la parole aux autres.
On a transformé, et je réponds à l'autre qui a dit que ce n'est pas les 14 qui ont voté. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec les gens. La motion elle-même a été signée par 14 députés. Motion de défiance. Et votée par les 14
Merci.
Députés.
Merci. Ah, s'il vous plaît.
Attendez, il faut pas commencer à brouiller.
Monsieur Katempa.
Permettez, je voudrais
une minute.
Avec
vous. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Vous avez une minute.
Mais on va donner. Vous posez d'autres questions.
Non, ne répondez pas à ces questions-là. Répondez juste aux trois questions qu'on vient de vous poser.
Je viens de répondre aux trois.
Merci. Vous avez répondu. On va donner la parole à Mathias Makolo-Vera qui veut réagir à vos propos. Allez-y, Mathias.
En tout cas, merci beaucoup, madame Kelly. Je me sens très à l'aise quand je suis en train d'écouter des articles qui ne sont pas bien interprétés par les parlementaires qui l'ont légiféré. C'est grave. L'honorable Alexis Katempa, je vais commencer par les débuts, parce qu'il a énuméré l'article 146 de la Constitution, et il est devant moi ici. Et c'est toujours de la Constitution, je dis bien. Il a bien parlé par rapport à la procédure de vote, l'article 146 de la Constitution. Vous avez énuméré, et c'est dit dans votre article. Écoutez bien, non, suivez-moi, c'est moi qui parle. Vous l'avez énuméré, s'il vous plaît. L'honorable Alexis Katempa a énuméré l'article 146. Il a référé à l'article 146 conformément à ce qui est dit à l'article 146. Et si vous lisez l'article 146, ça parle du gouvernement et de l'Assemblée nationale. C'est la procédure, parce que j'ai dit c'est l'ombre même du règlement de l'Assemblée provinciale. Et il est dit que les débats et les votes ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. Je laisse ça parce qu'il n'a pas bien maîtrisé l'article 146. Wow. Nous allons à... Nous rentrons. Il a énuméré, l'honorable Alexis Katempa a énuméré l'article 166 de la Constitution. Et c'est dans cet article 166 qu'il a cité l'article 146, plutôt du règlement intérieur, qu'il a cité l'article 146. Il est dit ceci, madame Kelly. Nul ne peut se soustraire à l'obligation de répondre à la question orale ou écrite posée par un député provincial, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur. Sous peine, le cas échéant, de s'exposer à des sanctions recommandées par la plénière. pour les membres du gouvernement à la motion de défiance ou de censure, conformément à l'article 146 de la Constitution de la RDC. C'est là que ça nous ramenait à l'article 146. Et on devait lire ça. Et maintenant, il a dit à un moment donné que le VPM n'est pas notre chef. Je suis très estomaqué. Quand l'honorable Alexis Katempa était membre d'un bureau de l'Assemblée provinciale, il courait de Kalemie jusqu'à Kinshasa et revenir avec l'effigie du chef de l'État. Avec... On a vu...
S'il vous plaît.
Nous serons... Nous serons...
S'il vous plaît.
J'ai dit bien,
s'il vous plaît.
Madame Kéline,
s'il vous
nous
plaît,
serons dans quel pays...
Un peu de calme dans la salle.
Nous serons
s'il
dans
vous plaît,
quel pays
s'il vous plaît.
Où si la politique marche pour votre intérêt, vous êtes de cette obédience. Et si c'est maintenant de votre camp, vous changez, vous dites que celui-ci n'est pas mon autorité. Vous êtes venu ici... Avec le vigile du chef de l'État, avec le vigile du chef de l'État, tous les membres de votre bureau, avec une note venant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous demandant de regagner votre poste de travail. Et vous avez parlé de ça. Au-delà de ça.
Allez, c'est rapide,
oui, je n'ai que 2 minutes jusqu'à là. Alors, il a parlé ici du changement de la motion. Moi, je regrette encore. La procédure, on a posé la question sur la procédure. L'honorable venait de répondre à cet auditeur, il dit ceci. La loi dit qu'on peut changer, si l'auteur de la question n'est pas satisfait, il peut changer, mais il n'a pas déterminé changer en quoi. Il change en interpellation, ce n'est pas en motion de défiance. L'article 167 du règlement d'ordre intérieur. Il change en interpellation. Et si vous allez à l'article 167, c'est là où ça permet, ça dit ceci, madame, nous y allons. L'auteur d'une question orale, s'il vous plaît, l'auteur d'une question orale ou écrite, qui n'est pas satisfait de la réponse donnée, peut la transformer en interpellation, conformément à l'article 179. Parce qu'on cite l'article 179, nous devons lire l'article 179, qui définit l'interpellation, c'est quoi?
Allez-y,
l'interpellation est une demande d'explication. Adressé au gouvernement provincial ou à ses membres ou aux gestionnaires des services publics, les invite à se justifier selon les cas sur l'exercice de leur autorité ou sur la gestion d'un service public provincial ou local. Elle peut être initiée à tout moment de la session ordinaire. En session extraordinaire, l'interpellation ne peut avoir lieu que si elle est préalablement inscrite à l'ordre du jour fixé dans cette convocation. La plénière qui était ce jour-là, quel était l'ordre du jour? Ou aujourd'hui que l'honorable Katempa nous dise que ce règlement intérieur est biaisé, qu'on le jette et qu'on ferme l'Assemblée. Parce
merci.
Que ce jour-là, l'objet, je vais terminer, l'ordre du jour était bien clair. L'analyse de la question orale avec débat. Et s'il s'agissait de changer, parce que l'auteur, donc celui qui a été accusé n'a pas répondu, il y a encore la procédure. Il n'a pas répondu, l'honorable devait transformer sa question en interpellation. Comme, la procédure est comment? Je vais m'arrêter par là. Quand est-ce qu'elle change? Il change. Ce n'est pas séance tenante. Il doit aller écrire. Le règlement est ici. Quand l'honorable dit non, c'est qu'il est en train de renier leur propre règlement.
Monsieur,
et d'ailleurs, il est en train de fausser encore contre l'article 164 parce qu'il est en train d'affirmer des histoires en l'air seulement comme ça que le gouverneur était allé voir le ministre de l'Intérieur. L'article 164 de leur propre règlement interdit des affirmations gratuites, sans preuve. Et ça y est là-bas. Je sais que nous allons encore revenir. Il est dit ceci, madame, par rapport à la procédure. Les articles sont là. Je peux laisser les papiers que moi j'ai.
Ah, s'il vous plaît, dans la salle, on va écouter.
Je
on
peux
va
laisser
écouter
la synthèse du règlement intérieur que moi je détiens et je prends le règlement intérieur que l'honorable Katempa détient pour lire ces articles. La motion doit être, quand on change en interpellation, l'auteur va aller rédiger la motion. Nulle part on dit qu'il change la question orale en motion de défiance. Nulle part. S'il me montre, je mets ma main à couper.
Vous l'avez dit, monsieur Marco Lovera.
Alors, il doit déposer au bureau. Il est dit ceci, il doit déposer au bureau. Et le bureau doit statuer. Après avoir statué, le bureau doit notifier. Après avoir notifié, on va programmer la plénière 48 heures après. Et c'est 48 heures après que le débat peut être donné.
Merci.
Maintenant, quelle est la procédure qui a été suivie par cette plénière-là?
Merci, monsieur Macron.
Et puis, il a parlé de l'outrage. Il a parlé de l'outrage.
S'il vous plaît, je vais vous redonner la parole. Monsieur Katempa, non, vous n'avez pas la parole. Vous allez répondre après, vous n'avez pas la parole. Non, s'il vous plaît. Vous allez répondre après. Allez-y, monsieur Kalinde.
Effectivement, comme je vous ai dit au début, il n'y aurait pas de soucis s'il n'y avait pas le respect des lois. En fait, il faut reconnaître, d'une part, que la transformation de la question orale en une motion de déchéance, cette motion de déchéance, ça devient une nouvelle notion que la personne qui devait comparaître, ne comparaissait pas et ne connaît pas. On devait en principe lui notifier. Cela, c'est une évidence. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il y a cette crise institutionnelle, d'une part, comme je l'ai dit, il y a ce non-respect des lois. Et donc, au jour d'aujourd'hui, toutes ces préoccupations-là doivent être élaguées par la Cour. C'est la Cour maintenant, la Cour constitutionnelle, qui va maintenant nous préciser, qui va déterminer les différentes parties. Est-ce qu'on a respecté la loi ou on n'a pas respecté? Mais à ce niveau-là, déjà, il y a un petit souci par rapport au respect de la loi. Et pour conclure, par rapport à la question qui m'a été posée au sujet de connotation politique par rapport au candidat gouverneur, évidemment, c'est aussi cette préoccupation-là. Vous avez entendu ici dans la province, on vous parlera de manière vulgaire de ce qu'on parle de des infiltrés ou des gens qu'on a invités qui viennent de je ne sais pas d'où. Donc, si on prend des individus à la tête, et ça c'est la tâche même de nos députés aussi, lorsqu'ils arrivent à élire, ils doivent tenir compte, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent en liste, ils doivent tenir compte aussi de cela pour savoir si cette personne est moralement ou intellectuellement réunie les conditions pour être à la tête de la province. Parce que finalement, on commence à en avoir marre. C'est chaque gouvernement qui doit être mis en cause. Donc, soit peut-être au départ, on a mal choisi. Et c'est cette question-là aussi, on devrait... Mais en attendant, donc, toutes ces questions-là doivent être traitées par la Cour. Et je crois que c'est en ce moment-là que cette crise va s'arrêter.
Alors, deuxième série de questions. Je vais insister encore une fois. Soyez concis, s'il vous plaît. Allez droit à la question. On n'a pas besoin que vous puissiez nous expliquer la genèse de la crise. Droit à la question, s'il vous plaît.
Merci. Nous saluons l'acte posé par les députés. Moi, c'est Nathan Mugisho, Miru Ozamu. Je suis le président du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou. L'acte posé par le député de Deschoir, la gouverneure qui n'avait présenté aucun bilan, aucun signe de développement de notre province, c'est un acte à saluer. Et aujourd'hui, une seule question que je peux poser à l'honorable Makolo Vera. Et je l'appelle honorable par rapport au Parlement debout sans tabou. Est-ce que le gouverneur est déchu? Merci.
Merci de la parole. Jacob Amani, la question est une mais orientée vers le représentant de l'exécutif provincial, mais aussi à l'honorable député représentant l'organe délibérant.
S'il vous plaît, dans la salle, on va écouter la question.
Je viens de comprendre que le débat est plus orienté sur la forme et non sur le fond. La question orale avec débat adressé à Madame le gouverneur. Et comprend en même temps que l'exécutif provincial a pris cette question pour une arme de pouvoir attaquer le pouvoir que de prendre cela pour une opportunité à démontrer les actions visibles qui seraient exécutées par ce gouvernement en leur mandat. Ma question, j'aimerais avoir l'avis du représentant de l'exécutif provincial sur les fonds de cette question, car c'est ce qui concerne plus la population. Et de la part du représentant l'organe délibérant.
Je ne représente pas ici, je suis député.
Le député, l'honorable invité, ici. Voilà. Alors, ma question, quelle est la part de la population?
On a posé déjà cette question.
Non, c'est pas... Gérant chéri, c'est pas la même question.
Oui, allez-y, on vous écoute.
C'est pas la même question.
Allez-y.
Quelle est la part de la population dans cette bataille aussi longtemps que par le règlement, vous reconnaissez indirectement la procédure qui n'a pas été respectée? Merci.
Troisième question.
Merci beaucoup. Moi, je suis M. Janvier Kinyoke. J'ai une petite question seulement. Ah, papa Alexis, nous savons que nous avons reconnu que la province du Tanganyika, c'est une nouvelle province et on reconnaît bien sûr qu'il y a une nouvelle province en voie de développement. Ma préoccupation serait de savoir, selon les députés provinciaux que vous représentez, quel est le profil d'un gouverneur? Parce qu'à tout moment, on change. Selon vous, est-ce que vous pouvez expliquer devant le monde entier les profils d'un bon gouverneur? Merci beaucoup.
Je vais demander aux invités aussi d'être vraiment concis dans leurs réponses, parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Monsieur Alexis, prenez le micro, vous avez la parole, répondez aux préoccupations de la population. Soyez bref, s'il vous plaît.
Je voudrais revenir, parce qu'il ne fallait pas que nous puissions laisser l'amalgame. Je lui ai donné l'article 166. Cet article qui dit que nul ne peut se soustraire à l'obligation de répondre à la question orale ou écrite posée par un député provincial, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, sous peine, le cas échéant, de s'exposer à des sanctions recommandées par la plénière pour les membres du gouvernement. Voilà là où nous avons opté pour motion de défiance. Ici, on dit très bien à la motion de défiance ou de censure, conformément à l'article 146. L'article 146 dont il parle, il ne sait pas que dans les articles de notre règlement intérieur, on parle de mutatis mutandis. Alors, je vous ai dit que cet acte, c'est l'acte qui frise l'outrage à l'Assemblée provinciale. Je clôt ce débat-là. Ce n'est pas l'interpellation ici. Ici, c'est motion de défiance ou de censure. Là, je prends maintenant le...
Les différentes
je voudrais
questions
aussi
qu'on vous a
parler
posées.
De l'analyste qui a parlé que le ministre de l'Intérieur, il a le droit de fermer tout ça en cas de trouble. Le télégramme n'a pas parlé de la fermeture. Le télégramme a bien, c'était bien dit, on a parlé de suspendre les plénières. Le plénière, c'est la salle de plénière. Ce n'est pas le bureau de l'Assemblée. C'est là aussi l'amalgame. Ici, un ministre provincial est allé, chargé de l'intérieur. Voilà un peu la mégalomanie, ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Il va plutôt à l'Assemblée fermer, sceller le bureau. Ça n'a pas été dit. Nous sommes allés à Kinshasa. On nous a appelés dans la même circonstance ici. Nous, on a cru... Je vous dis, on nous a appelé. On a cru que c'est là qu'on peut trouver des solutions. Mais quand on est arrivé à Kinshasa, il n'y avait pas de solution. Ici, on a laissé les mêmes bureaux que eux ont été investis d'une manière cavalière. On nomme le ministre à 12h et à 13h, on va investir là-bas. Dans des conditions inacceptables. Là, on ne dit pas. Lorsque nous avons pris conscience avec des textes à l'appui, que nous ne dépendons pas du ministère de l'Intérieur, nous avons dit que cette fois-ci, cette blague-là ne va pas revenir. Vous avez suivi même les députés de Sud Kivu qui sont là-bas, qui ont déjà fait 3 mois. Ils ne font rien là-bas. Donc, je réponds à ça. On est parti par naïveté avant, mais nous avons trouvé que ce n'est pas ça la porte qu'il faut faire.
Alors, c'est quoi le profil d'un bon gouverneur selon vous?
Je voudrais aussi répondre à celui qui m'a posé la question. Le profil d'un bon gouverneur, c'est la bonne gouvernance. Oui. Si vous ne gouvernez pas très bien, ce n'est pas votre profil, on vous fait partir. C'est la bonne gouvernance, c'est tout. Mais depuis que les gens sont arrivés ici, il y a la rapacité de la gestion publique ici. On ne sait pas s'il y a même des gens qui parlent et même par fanatisme, c'est malheureux.
Mathias Makolovera, vous allez aussi être concis. Alors, Julie Ngungwa, est-elle déchue, oui ou non?
Merci beaucoup pour d'abord les deux questions des auditeurs.
Répondez directement aux questions des
Monsieur Nathan Mugisho a demandé si le gouverneur de province était déchu ou non. Je lui renvoie toujours dans l'article 205 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Il est dit ceci, lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure ou une motion de défiance, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le gouverneur de province remet sa démission du gouvernement provincial au président de la République dans les 24 heures. La démission n'a jamais été remise jusqu'à aujourd'hui. Le gouverneur de province est en mission. Jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur Julie Ngungwa Mayuma est en mission. Et voilà pourquoi le gouvernement agit en son nom. Et qu'il n'y a aucune notification de qui que ce soit pour être intérimaire juridique au gouverneur. Mais intérimaire constitutionnel, je suis d'accord.
Mais la deuxième question,
c'est qu'on reproche à Madame Julie Ngungwa.
On demande si c'est fondé ou non. On connaîtrait si c'est fondé si l'Assemblée provinciale allait suivre la procédure. Elle est très large pour qu'on écoute Madame le gouverneur. C'est-à-dire, si elle a raté à répondre à la question orale avec débat, il y a une autre phase qui est bien prévue, l'interpellation, avant d'arriver à la motion de défiance. À l'interpellation, elle allait répondre par oui ou non. Et on dit que non, parce qu'elle n'a pas répondu, il y a eu outrage. Il n'y a pas outrage. Il y a outrage à quel niveau? Parce que l'article 205, plutôt, je m'excuse, l'article 207 de leur règlement dit ceci. Il y a outrage à l'Assemblée provinciale lorsque sur des questions posées par elle sur l'activité gouvernementale, le gouverneur n'est fourni aucune réponse dans les délais de 30 jours. Est-ce que le gouverneur a réalisé 30 jours pour ne pas répondre à leur question? C'est le règlement qui est ici. On l'a convoqué dans 8 jours, on l'a reconvoqué dans 2 semaines, c'est 14 jours, et avant qu'on atteigne même 14 jours, on l'a déçu d'une manière cavalière, comme mon co-débatteur l'a utilisé. C'est que jusque-là, il n'y a pas outrage, il y a un coup d'état politique prémédité et démesuré.
Maître Bavon Kalidé, oui. Comment mettre fin à cette situation?
Je commence d'abord par la fin de l'intervenant de tout à l'heure lorsqu'il dit que la gouverneure n'est pas déchue, qu'elle est en mission. Et là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la gouverneure a saisi la cour. Pourquoi elle a saisi la cour? Parce que... elle a saisi la cour, c'est parce qu'elle connaît l'importance de la décision prise par l'Assemblée provinciale. On lui demande de démissionner. Si elle accepte cette décision, elle a le droit maintenant de demander la démission. Mais comme elle n'accepte pas la décision, elle a saisi la cour. Donc pour le moment, la gouverneure est déchue. Et pour finir, comment mettre fin à tout cet entamage que nous connaissons dans notre province? Tout le monde va remarquer que peu avant ça, il y a eu beaucoup de conflits dans la province, entre l'autorité et les gens de son parti, l'autorité avec les entreprises publiques, il y a eu beaucoup de problèmes. Et la province ne se gère pas dans les réseaux sociaux, où toutes les questions, soit la gouverneure pour répondre aux différentes préoccupations, par personne interposée, elle invite des personnes pour venir injurer des gens dans les réseaux sociaux. Tout cela crée tout ce qui est arrivé. Mais le respect des lois fera que nous puissions administrer notre province dans les normes et nous allons établir la sécurité. Mais pour le moment, nous attendons la décision de la cour et le vice-gouverneur assume l'intérim jusqu'à son retour éventuel.
Voilà, il y a une dame. Je vais quand même prendre la question de la dame. Ça sera la dernière. Parce que, par la fin de l'émission, ça sera la dernière question. Bon, je vais ajouter monsieur devant moi. On n'a plus beaucoup de temps. Madame, allez-y.
Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Dorothée Hippie. En fait, il y a une question très importante qui a été posée, mais qui est en souffrance. Jusque-là, on n'a pas encore des réponses. La question était de savoir quelle est la part de la population. Et cette question est posée à toutes les deux parties prégnantes, l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Merci.
Deuxième question, rapidement.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Satya Sangwabin Albert. Je voudrais m'adresser à M. Mathias Makolovera. Et ma question est de savoir, est-ce que M. Mathias Makolovera, devant le public ici et devant les auditeurs de la radio Okapi, peut démentir que la date du 8 mai a été fixée par Madame le gouverneur après son moratoire à l'Assemblée provinciale? Si oui, peux-tu nous interpréter cette phrase qui nous dit « qui dit mot consent » selon certains articles énumérés par l'honorable Alexis Katempa par rapport à l'absence de Madame le gouverneur le jour de la plénière qu'elle-même a fixé la date? Au-delà de ça, M. Mathias Makolovera peut également nous confirmer ici que Madame le gouverneur était réellement aux soins après sa lettre en précipitation qui, d'ailleurs, après un ordre d'émission collectif qui ne contenait qu'un seul nom qui est le sien d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Merci.
C'est fini pour les questions. Mathias Makolovera, vous avez la parole. Cette situation impacte négativement sur le développement de la province. Quelle est la part de la population dans tout ça?
Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette question.
S'il vous plaît.
Je crois qu'on devrait vraiment revenir à cette question et je m'attendais qu'on revienne à cette question. La part de la population ici n'existe pas. Elle est même violée et désorientée par leurs propres représentants, qui sont les députés provinciaux. L'Assemblée provinciale représente directement la population. Et en prenant des actes sans analyse des conséquences en aval et en amont, on sait très bien qu'on peut plonger la même population qui les a élus dans une situation de chaos. Et donc, si c'est une action préméditée par l'Assemblée provinciale, l'ennemi du peuple, ce sont les députés provinciaux. Alors, par rapport à Sanchez, la question dit 8. Confirmé ou infirmé? Je confirme que le 8 mai, c'est une date moratoire demandée par son Excellence Madame le Gouverneur, qui devait se retrouver à Kinshasa. Et sa mission de Kinshasa, signée même, il y a l'accusé de réception, et sa mission de Kinshasa à sa hiérarchie n'étant pas finie, avant le 8, le 6, son Excellence Madame le Gouverneur a signalé son absence à l'Assemblée provinciale en écrivant encore à l'honorable président. Sauf parce qu'il y a eu un plan de cette conspiration, on n'a pas voulu suivre ces textes. Voilà pourquoi on a abouti à son résultat. Là, il n'y a pas débat. Partir aux soins ou pas. Je dis bien qu'à partir du 20 avril, son Excellence Madame le Gouverneur avait déjà son autorisation pour des soins médicaux. Et ce n'était pas pour la première fois. Elle était encore allée aux soins médicaux. Ce n'était pas pour la première fois, c'était un second contrôle. Le 20, l'autorisation, mais la motion, la question orale avec débat n'est entrée que le 26. Quel est l'événement qui a précédé l'autre? C'est l'autorisation pour soins médicaux ou c'est la question orale avec débat? Là, vous avez la réponse.
Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à toutes ces crises dans la province du Tanganyika?
Merci beaucoup. En tout cas, je dois conclure en demandant d'abord aux honorables députés, parce que quand les honorables députés seront là pour amender les gouverneurs qu'ils ont élus, j'allais même poser une question. Ils élisent le gouverneur sur base de leur classe politique ou sur base de leur discours? Comment est-ce qu'on peut voter un gouverneur sur base d'un programme qu'il vous a présenté et arriver vous dites qu'il n'est pas capable? Vous l'avez voté sur base de quoi? Parce qu'on vote le discours. Et le discours vous a convaincu. Quel est le mode de contrôle parlementaire que vous avez pu réaliser durant 10 mois? Un seul mode de contrôle parlementaire, à part la motion introduite et la question orale avec débat. Et donc, si nous voulons que cette situation prenne fin dans le Tanganyika, nous devons avoir des institutions qui soient non seulement scientifiques, mais aussi conscientes. Aussi longtemps que les députés que nous votons ne mettront plus la conscience au-dessus de leur science, parce que je ne sais pas la formation de chacun, nous serons toujours dans de telles situations. Le respect de la loi fait partie aussi du patriotisme. Si on ne respecte pas la loi, donc on n'est pas au service de la nation, on n'est pas au service de la population, mais au service de leurs intérêts égoïstes.
Merci, monsieur Mathias Makolovera. Présenter un programme est une chose, l'appliquer en est une autre. Monsieur le député, vous avez la parole. Il y a une question pour vous aussi, la part de la population dans tout ça.
Je crois...
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. La population est représentée par les députés provinciaux. Les députés provinciaux, ce sont les députés qui voient la marche de la province pour le bien-être de la population. Lorsque nous trouvons à la tête où
s'il vous plaît.
Il y a, peu importe, nous ne sommes pas dans ce débat-là, chacun avait des gaffes. Je vous dis que lorsque les députés trouvent qu'il y a un chaos dans la gestion de la res publica de la province, on doit corriger ça. La population, pour que la population trouve sa part, il faut que nous puissions avoir à la tête les gouverneurs qui puissent bien gérer la province. C'est la bonne gouvernance. Parce que depuis que nous avons commencé, il n'y avait rien jusqu'à présent. On a vu dans les réseaux sociaux des commentaires et des réalisations, alors que tout ce que nous avons trouvé dans la province ici, c'est Matata 2. Les projets de Matata 2, les routes, tout, c'est Matata 2. Il y en a qui sont arrivés ici, ont commencé à détruire méchamment les maisons des gens.
Alors, la population. S'il vous plaît.
La part de la population, c'est ça. La part de la population.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
La part de la population. Monsieur, il ne faut pas me doigter. Si tu es fanatique aveugle, il ne faut pas me doigter.
Allez-y, monsieur le député.
Je vous dis ceci. Je viens de dire. La part.
S'il vous plaît, monsieur en lunettes, s'il vous plaît.
La part de la population. J'avais dit que. La population ne trouvera la part que si nous avons à la tête un gouverneur
qui applique la bonne gouvernance. Sinon, c'est rien.
Vous allez conclure, monsieur Katempak.
Lorsque on approuve un programme, comment on arrive encore à désapprouver le programme? Le programme est approuvé et on doit exécuter. Lorsqu'on n'exécute pas le programme, c'est là que ça devient un problème. C'est-à-dire, vous ne gérez pas. C'est ça le problème.
Merci.
Et la fondation ne va pas se retrouver.
Merci, monsieur Katempa. Votre conclusion, monsieur Bavon, ça sera tout.
Pour mettre fin à cette crise institutionnelle, il n'y a pas de chemin. Premier chemin, nous commençons par attendre la suite de la Cour. Deuxièmement, en attendant la décision de la Cour, tout le monde se soumet à l'autorité qui assume l'intérim. Parce que si d'autres personnes commencent à contester, nous irons de crise en crise. Troisièmement, enfin, si jamais la gouverneure rentrait par la décision de la Cour, si jamais, elle doit se mettre à honorer ses engagements dans son projet. Elle a promis de faire ceci et de faire cela. Ce n'est pas parce que les gens prennent les taxes et qu'il n'y a pas un retour pour la population. Ça fait mal lorsque la population apprend et demande que vous construisez un pont de 5 mètres. Vous dites qu'il n'y a pas l'argent et on apprend que vous construisez un hôtel à Lubumbashi à Kinshasa. C'est anormal.
Merci, monsieur Bavon. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à vous tous qui êtes venus pour participer à cette émission. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Paulin Munanga nous a aidé à préparer ce magazine. Jonathan Fualani et Dieudonné Nyangasa a été à la technique. Moi, c'est Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Encore merci à vous d'être venus dans cette salle pour cette émission.